Le yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.
Bonjour Astrid.
Bonjour.
Alors, vous connaissez le dicton « à peine fini Pourim, il faut commencer à préparer Pessah ». Alors là, on est un petit peu entre les deux, puisque nous enregistrons cette émission le jour de Pourim, mais elle va passer évidemment plus tard. Jour de Pourim, où, comme cette émission va passer le 8 mars, nous avons décidé de consacrer cette émission aux femmes, à la littérature féminine, yiddish bien sûr. Mais je voulais aussi dire que j'ai eu le grand plaisir d'assister ce matin, donc jour de Pourim, à une lecture de la Megillah faite par des femmes.
Alors, je tout ne peux arrive,
pas...
hein.
Tout arrive, voilà. Donc, je ne peux pas donner leur nom parce que je ne savais pas qui c'était, mais ça s'est passé donc à Tashbar, pour ne pas le dire, dans une salle de classe à Strasbourg, bien sûr, et nous étions une bonne 20 à 30 femmes avec des enfants à assister à cette lecture très, très bien faite.
Plusieurs femmes ont lu la Megillah.
Voilà, elles se sont... elles ont fait un relais, quoi.
Elles
se sont succédées.
Inutile de dire qu'elles font aussi bien que les hommes.
Oui, c'est autre chose. C'est plus doux, c'est intéressant. Et bon... La Megillah, c'est quand même une histoire de femme.
Oui.
Il y a cette pauvre Vashti qui se fait répudier et peut-être tuer. Ouais, c'est pas clair du tout dans la Megillah.
Pas clair, ouais.
Et puis, il y a évidemment notre grande Esther et tout ce qui
Alors, est-ce qu'ils ont laissé au moins les enfants s'amuser sur Haman?
Pas trop. Avant, on nous a dit qu'il fallait bien pas faire trop de bruit parce qu'effectivement, il ne faut pas que ça... qu'on ne puisse plus entendre la Megillah, l'important c'est quand même d'entendre. Donc les enfants étaient, je dois dire, très très sages et c'était vraiment une lecture très agréable. J'étais très très contente d'y assister. Alors donc, qui est l'auteur à qui nous allons consacrer cette émission? Eh bien, Kadia Molodowski, que vous connaissez certainement si vous suivez nos émissions, puisque j'en parle beaucoup.
Oui, ton chouchou, là, dans les derniers temps.
Voilà, bien qu'il y ait beaucoup de poétesses femmes, oui, de poétesses, bien sûr, poétesses, écrivaines aussi, qu'on commence peu à peu à découvrir... et bon, qu'on met en avant, puisque dans le monde yiddish comme ailleurs, les femmes, on commence à se rendre compte qu'il y avait beaucoup de femmes et qui ont écrit des choses intéressantes. Et on commence à les lire, à les traduire même peu à peu. Et donc, il y a aussi Rochel Korn, il y a aussi un écrivain pas extrêmement connu qui s'appelle Malkali, dont nous sommes en train de lire des œuvres. Mais là, on va revenir donc à Kadia Molodowski, qui est une des femmes qui a écrit le plus longtemps aussi, puisqu'elle a eu la chance d'échapper à la Shoah. Donc, elle est venue en venant aux USA en 1935. Je vais rapidement rappeler sa biographie. Donc, elle est née en 1894 dans un petit village qui s'appelait Ashtetl Kartouche Bereza, qu'elle appelle Berze, elle. Elle a eu une éducation très complète au niveau religieux, au niveau hébraïque aussi, et elle avait des tas de cours aussi, des cours d'histoire, des cours de russe, et elle a passé son bac, donc le bac à l'époque qui était un bac russe, hein. Et ensuite elle a suivi une formation pour devenir enseignante. Elle est ensuite partie en Ukraine, où elle a échappé à un pogrom. Et là, il y a une anecdote très amusante, c'est-à-dire que après, quand les événements tragiques de la Russie là, se calment, c'est l'Ukraine, hein, nous sommes en Ukraine, nous sommes à Kiev, où il y a eu beaucoup, beaucoup de pogroms et beaucoup de morts, mais elle a échappé. Donc, il y a une petite fête après quand les choses se calment, et donc elle lit un petit texte qu'elle a écrit sur le pogrom, qui en fait n'était pas un vrai pogrom, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui sont venus chez elle, enfin dans un appartement où s'étaient réfugiées un certain nombre de femmes, et ils ont pris tout ce qu'elles avaient, mais ils ne les ont pas molestées. Donc, elle a fait un petit texte et du coup, on s'est rendu compte qu'elle écrivait. Et puis, elle a édité ses œuvres, ses premiers poèmes, dans une revue qui s'appelle Eigens, dirigée par David Bergelson. Ensuite, elle est allée à Varsovie avec son mari, Shmuel, je ne sais plus son nom de famille, et elle a continué, donc a enseigné le yiddish et l'hébreu, tout en écrivant. Donc elle a écrit des textes, des poèmes parfois difficiles, très très personnels, également des textes pour enfants. Et puis, ensuite, elle est partie en 1935 aux États-Unis. Et là, elle a continué à travailler, elle a dirigé une revue, elle a continué à écrire. Un des textes qu'elle a écrit justement aux USA, en 1952, ça s'appelle Le journal de Rivke Goldberg. Alors j'en parle parce qu'il vient d'être traduit par Rachel, je crois, Buchbinder. Dont j'en parlerai la prochaine fois. Parce qu'elle n'est pas beaucoup traduite. Hein. C'est, bon, les poèmes ne sont pas faciles à traduire, mais c'est aussi le problème des auteurs yiddish, enfin, qu'on est en train de traduire quand même de plus en plus, mais elle n'est pas beaucoup traduite. Voilà, et donc elle est décédée en 1975, donc après, comme j'ai dit, une longue carrière dans tous les domaines. Voilà, ben on va peut-être commencer par écouter une petite musique,
un poème de Kadia Molodetz, que je crois qu'elle est assez connue en Israël.
Oui, en Israël, oui, justement, ben, je crois que j'ai déjà raconté que j'avais suivi une université d'été de yiddish à Berlin. Et donc je disais, elle a séjourné en Israël, je crois, dans les années 50, et elle est revenue aux États-Unis. J'ai dit elle est revenue parce qu'elle était déçue par l'accueil du yiddish en Israël. Et là-dessus, un des étudiants qui était un Israélien m'a dit « Ah mais non, pas du tout, Kadia Molodovsky est très connue en Israël, on chante ses chansons, on lit ses textes, mais on les lit en hébreu. » Voilà, donc oui. Elle a été beaucoup traduite. Oui. Et donc c'est en hébreu qu'on lit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas traduit elle-même, alors qu'elle était enseignante d'hébreu, oui. Hein, d'hébreu moderne, hein, d'ivrite, si on peut dire, mais elle-même n'a pas traduit ses textes, donc ses textes ont été traduits, surtout ses histoires pour enfants qui sont très très sympathiques. Voilà, donc qu'est-ce que tu vas nous faire entendre?
Ben justement, donc je voulais souligner la qualité du livret. Donc ce sont des textes de poètes mis en musique par Chava Halberstein. J'ai déjà souvent parlé de ce disque qui est très remarquable. Il s'appelle Lemele, Petit Agneau, parce que pas toutes, mais quelques-unes des chansons qui parlent d'agneau. Et le livret, oui, est très remarquable. Il est en yiddish, en ivrite, en français et en anglais. Mais pas en translittération. Voilà, chaque chanteur ou producteur choisit la forme qu'il veut voir apparente dans les livrets. Souvent, on a les chansons en translittération puisque tout le monde ne lit pas le yiddish en caractère hébraïque. Donc, première chanson qui s'appelle « Prière ». Et là, on voit, comme tu disais, le côté quand même très dépressif, quoi, presque, de sa personnalité.
Oui, tout à fait. Elle avait vraiment des moments de dépression graves qu'elle arrivait quand même à donner dans ses textes et qu'elle... qu'elle surmontait ensuite. Bon, il y a quelques textes qui sont joyeux, mais vraiment pas beaucoup. La plupart sont quand même d'une tonalité assez triste.
Assez sombre. Alors, c'est celui-là, donc il s'appelle « Prière, Tfile, prière à la nuit. Nuit, ouvre-moi un berceau, comme pour le malade, à son heure la plus pénible. Nuit, couvre-moi de ton silence, comme pour le plus exténué, à la fin du jour. Nuit, soule-moi par l'oubli, comme pour le portefaix sous sa lourde charge. Nuit, assombris tes vitres pour un pécheur honteux pendant sa prière. Nuit, protège-moi, cache mon découragement de ce jour. » La pauvre, on a envie de la prendre dans nos bras et de la consoler. Donc voilà, Tfile sur un texte de Kadia Molodovsky, chanté par Chava Halberstein.
Nacht, sprecht euch für mir a Wiegel, wie für a Kranken in sein schwerster Schoß. Nacht, deck mich ein mit dein Stillkeit, wie dem müdesten Mieden vor dem Umwurf und Tor. Nacht, trink mich um mit Vergessen, wie dem Träger dem Schwersten von die Lasten ohne Wog. Nacht, verschiebe deine Schäuben, verbitter, verschämten in der Mitten hat viele zu Gott. Nacht, sei mich Matzil, verstell und ich schüffelst du schon von dem Tag.
Voilà, donc comme on disait, c'est très doux et c'est très, toujours très bien chanté par Raval Bernstein, c'est toujours très beau. Alors là, je vais lire donc un poème qui sort du recueil Dzikegas. Donc Dzikegas, c'est la rue Dzika. Donc c'est une des rues de Varsovie, une rue pauvre. Alors on connaît plus la rue Krochmalna parce qu'elle a été rendue célèbre par Isaac Bashevis-Zinger. On connaît aussi la rue Smotchegas, qui a été rendue aussi célèbre par un auteur israélien qui a écrit une biographie de cette rue, mais je ne sais plus son nom. Voilà, ici c'est Dzik. Donc Dzik, ça fait partie aussi de ce quartier juif qui n'était pas un ghetto, hein, bien sûr, le quartier juif de Varsovie, où habitaient que des gens très pauvres et où elle enseignait, hein. Voilà, donc je lis, c'est de ma traduction, hein, ça n'a pas été traduit. Donc elle le dédie à Opatoshu, un des grands écrivains yiddish de l'époque. C'est le 15 du mois d'Iyar, donc Iyar ça correspond à avril-mai. Il y a des jours comme du safran doré, on sent une odeur délicieuse, presque, on croirait que Dieu est présent. L'air résonne. L'été fleurit dans ma chevelure. mais au-dessus de moi se dresse tranchante la réalité quotidienne. Ici vivent des chômeurs, des communistes, et puis la misère. La quotidienneté est un fait sanglant. Tous les toits font résonner le malheur et les tables font résonner la faim. Et le va-nu-pied fait résonner l'international. Des juifs vivent ici, un peuple à mourir de rire. Ils livrent au monde des marchandises de rebut et le sang de ses fils et filles. Et moi, on me montre ici du doigt. La voilà, la poétesse, que le diable emporte sa mère. Elle se trimballe ici et avec notre malheur, elle tresse des rimes. Elle serait sortie hier dans les rues avec nous. Elle aurait vu comment on a fouetté à mort un jeune de 20 ans. Rue Djik, numéro 10. Et moi, je ne peux pas répondre un seul mot. Je sais, je ne fais pas partie des gens de première qualité. Et même si une source de larmes coule sous mon œil, je suis amoureuse de la vie comme une chienne. Alors, vous voyez, c'est très fort.
Ouais.
Et c'est vrai que... le mot chienne en français est vraiment un mot difficile à employer, qui a vraiment un sens très violent. En yiddish, c'est le mot tzeug. Alors, tzeug, je ne sais pas, c'est pas, il me semble que ce n'est pas un mot allemand, c'est ça, ou non, ça ne me dit rien du tout.
Moi, donc, parce que c'est la femelle du
oui,
chien.
Oui, c'est ça, c'est la femelle du chien. Bon, alors, il existe en yiddish, évidemment, hund, hein. Et il existe aussi kelev. Kelev en yiddish, ça ne veut pas dire un chien, ça veut dire un chien au sens français d'un homme. Hein. C'est un chien, c'est-à-dire c'est vraiment un sale type, quelqu'un qui n'est pas bien, etc. Dont le féminin est klaft. Hein. Alors, klaft a un sens aussi très négatif, bien sûr, mais c'est plutôt une mégère, oui. Quelqu'un qui colporte aussi des médisances.
Mais kelef, ça donne kleps en français, hein, en passant par l'arabe.
Oui, absolument. Et c'est un mot hébraïque qui est utilisé en hébreu dans le sens de chien, tout simplement. Hein, voilà. Et chienne en français a vraiment un sens sexuel, hein, il me semble.
Oui,
donc,
oui.
On ne peut pas traduire autrement. Hein. C'est le genre de choses qui est difficile pour un traducteur. C'est comme, par exemple, en français, on dit « bête comme un âne », mais en yiddish, on dit « doum via ferd », « bête comme un cheval
ouais. ».
Or, en français, le cheval n'est pas du tout bête.
Non.
Voilà, je vais lire...
L'âne non plus, remarque.
Voilà. Et donc là, on voit aussi le regard que ses enfants, que c'est pas ses enfants, elle n'a jamais eu d'enfant, Katia Mandouchevski, mais que ses élèves portent sur elle. Hein, c'est-à-dire, elle est avec eux, elle est dans la même rue, mais ils se rendent compte quand même qu'elle a plus d'argent et que, effectivement, avec leur malheur, elle fait des rimes. Hein,
ouais.
C'est un peu le problème des écrivains.
Ouais.
Voilà. Je vais lire encore un poème qui s'appelle Invité, Guest. Un poème et encore un poème et encore de nouveau, je suis fatiguée de mes poèmes et des autres poèmes. Ma maison est un carrousel posé sur des traverses pourries. Et là, tout de suite, en plein milieu du champ, elle va tomber. En dessous, passe la rue. Des chaussures vernies, des boutons dorés et plus bas, des traces de sang. Et même si je refuse ce souvenir, c'est pourtant ainsi, même au soleil de l'été, quand brille or et bleu. Les larmes ne sont pas des perles, comme l'écrivent toujours et encore les poètes. Ce sont des taches sur des lits sales. Les enfants ne sont pas de petits coquins, mais des vendeurs de bagels au coin des rues et chacun d'eux est blême comme un malade, comme s'ils portaient dans leur panier rond des malheurs. Leurs ombres sont comme des meutes de loups et leur langage est grossier et honté, leur regard est cruel, leurs mains meurtrières. Il parle fort pour que j'entende bien. Celle-là qui nous a appris l'alphabet, elle porte des chaussures de chevreau, même pas déchirées. L'important, c'est de dire, se partager le dernier bout, que sa tête s'enfonce dans la terre. Bien fait pour elle. Nous en avons marre de sa prononciation châtiée. Il parle fort, avec insolence. Leurs paroles me poursuivent comme des éclairs, me tombent dessus comme de la poix bouillante. La nuit, leurs mains glissent comme des feuilles d'eau sur mes vitres. Mes invités, ils viennent m'arracher à mon dernier rêve. celui dont je n'avais pas encore imaginé la fin.
Pouh, c'est affreux.
C'est assez affreux, effectivement.
Oui, mais c'est cette empathie avec les pauvres, et en même temps, et en plus, il la rejette, elle a la double punition.
Oui, c'est ça. oui, c'est vraiment ça. Elle se rend compte que pour eux, elle est quand même quelqu'un qui fait partie de l'autre monde.
Tu avais souligné une fois combien elle a été pauvre toute sa vie.
Elle était très pauvre, oui. Et quand elle est arrivée en Amérique, sa famille était affolée. Elle avait une seule robe. Elle s'en fichait aussi. Hein. C'est quelqu'un qui n'a jamais attaché beaucoup d'importance à l'argent. Mais bon, elle vivait quand même difficilement, oui. Et puis il y a aussi une anecdote que j'ai peut-être racontée déjà, de Meller Havitch, qui disait que son mari, qui était lui à Paris, était également pauvre, et donc ils s'envoyaient mutuellement 5 zlotys. Quand un avait 5 zlotys de plus, il l'envoyait à l'autre, et quand lui, il avait un peu de quelques sous, quelques francs, hein, à l'époque, il l'envoyait à Acadia. Voilà, on va peut-être écouter
une deuxième musique. Chanson. Alors, comme tu le disais, elle a résidé à Paris par moment, essentiellement pour aller voir son mari, parce qu'elle n'est pas restée très très longtemps
non,
à Paris.
Non,
on avait quand même utilisé le personnage et certains de ses poèmes dans notre spectacle qu'on a fait l'année dernière sur Yiddish à Paris, justement, et celui-là qui s'appelle A Talk Fagate, Le jour descend, on l'a utilisé en reprenant la mélodie de Rava Alberstein et aussi les arrangements. Alors, voici la traduction. Le jour descend. Le jour descend. Qu'y a-t-il de plus clair que le jour? Un ami disparaît. Ne pleure pas, mon cœur, ne pleure pas. Sois heureux, mon cœur, sois heureux, quand sous le sable, un rayon de soleil fait briller un diamant. Le jour descend, qu'y a-t-il de plus clair que le jour? Un ami disparaît, ne pleure pas, mon cœur, ne pleure pas. Réjouis-toi, mon cœur, réjouis-toi, parce que de l'œil noir a jailli la douce lumière. Le jour descend, qu'y a-t-il de plus clair que le jour? Un ami disparaît, ne pleure pas, mon cœur, ne pleure pas. Sois heureux, mon cœur, réjouis-toi, quand, sur le tas de sable, par hasard, tu te rencontreras avec Dieu. Le jour descend, qu'y a-t-il de plus clair que le jour? Un ami disparaît, ne pleure pas, mon cœur, ne pleure pas. Donc elle n'était pas croyante, hein, vraiment par hasard, tu rencontreras...
Oui, on voit quand même que Dieu apparaît dans certains des poèmes.
Oui, mais par hasard.
Voilà, donc on va l'écouter et puis on vous dit déjà Shalom Aleichem, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine et commencez bien le nettoyage de Pessah. Merci Thomas.
Atok forget un vos es lichte kervetok es geht a freind weg nicht klog mein herz nicht klog un frei sich frei mein herz vos is a mola zand un der strahl von sun gewesen a brillant Atok forget, und vos is lichtiker vitor. Es geht a freind weg, nicht klog mein Herz, nicht klog. Und frei sich frei mein Herz, vos Finsterkeit von euch. Hot ois gedachte Lichtigkeit, getone sissen soll. Atok forget, und vos is lichtiker vitor. Es geht a freind weg, nicht klog mein Herz, nicht klog. Und frei sich frei mein Herz, vos oi versemdel grob. Passiert es zufällig, begegen sich mit Gott. Und frei sich frei mein Herz, zufällig war gegen sich mit Gott. Ein Tag vergeht und was ist lichtiger wie Tod. Es geht ein Freund weg, nicht klog mein Herz, nicht klog.